l'espérance et à la vie, plutôt qu'à la guerre et à la destruction. Et il était loin de se douter qu'une autre manière de tuer, un meurtre très ordinaire que même cette période d'anarchie ne justifiait en rien, allait bientôt troubler le calme de la vie qu'il avait choisie. En temps normal, août aurait dû être un mois très calme pour les jardiniers, mais il y avait du travail plus qu'en suffisance pour un homme consciencieux. La seule aide qu'on lui avait proposée était le frère Athanase, qui était sourd, à moitié décrépit et parfaitement incapable de distinguer une plante utile d'une mauvaise herbe. Cadvel avait donc décliné cette proposition. Il préférait de beaucoup se débrouiller seul. Il y avait un parterre à préparer pour les choux tardifs, des graines à semer pour cette variété qui supporte bien l'hiver et des chaumes de la récolte de printemps qu'il fallait nettoyer pour en faire de la litière et du fourrage. En outre, dans son atelier de l'herbarium, dont il était particulièrement fier, il y avait une douzaine de préparations dans des flacons de verres et des mortiers sur les étagères, dont il fallait s'occuper au moins une fois par jour, sans compter les vins à base d'herbe qui bouillaient doucement sans qu'on s'en occupe pour le moment. Il était grand temps de récolter les plantes médicinales et il y avait tous les remèdes pour l'hiver qui réclamaient ses soins. Mais si Mathilde et Étienne dépensaient des fortunes à se battre pour le trône d'Angleterre devant les murs de l'abbaye, lui n'était pas le genre d'homme à laisser la moindre parcelle de son royaume échapper à son contrôle. S'il levait la tête du terreau qu'il bêchait pour son plant de chou, il pouvait voir les plumets paresseux de fumée suspendus au-dessus des toits de l'abbaye, de la ville et du château, et il pouvait sentir l'odeur âcre des incendies de la veille. Cela faisait près d'un mois que cette ombre et cette puanteur planaient comme un voile mortuaire sur Shrewsbury, et que le roi Étienne s'impatientait et se mettait en rage dans son camp devant la première enceinte du château, seul passage qui permit de pénétrer dans la ville à pied sec, tant qu'il ne se serait pas emparé des ponts. À l'intérieur de la forteresse, William Fitzalan résistait, l'œil sombre, contemplant, inquiet, ses ressources qui diminuaient, laissant défi et menace à son oncle, l'incorrigible Arnulf de Hédin, qui, malgré son courage, n'avait jamais su tenir sa langue. Les citadins, tête basse, verrouillaient leurs portes et fermaient leurs boutiques, ou s'ils pouvaient s'enfuir au pays de Galles, vers leurs adversaires de toujours, qu'ils redoutaient moins qu'Étienne. Les Gallois étaient ravis que les Anglais aient peur d'autres Anglais. Si on pouvait considérer Mathilde et Étienne comme Anglais, car étant alliés à Guillaume le Conquérant, on pouvait aussi les considérer comme Normands, donc Français. Ils laissaient ainsi le pays de Galles tranquille et ils aidaient volontiers les fuyards pourvu qu'on continuât à se tuer joyeusement en Angleterre. Cadvel se redressa et essuya la sueur sur sa tonsure, de la couleur d'une noisette bien mûre. Frère Oswald, l'aumônier, venait vers lui à grands pas, sa robe flottant au vent. Il poussait devant lui un garçon d'une quinzaine d'années, vêtu d'une grossière tunique marron et de courtes chausses d'été à la mode paysanne. Il avait les jambes nues, mais portait de bonnes chaussures de cuir. Apparemment, il s'était fait tout propre pour l'occasion. Le garçon alla où on lui dit, et, docile mais nerveux, garda les yeux baissés. Encore une famille qui prenait soin de mettre ses enfants à l'abri, leur évitant ainsi de se faire enrôler par l'un ou l'autre camp, se dit Cadvel, et on y soit qui mal y pense. Frère Cadvel, vous avez besoin d'aide, je crois. Voici un jeune qui ne doit pas avoir peur de se fatiguer. Une brave femme de la ville l'a amené au portier et a demandé qu'on le prenne afin d'en faire un serviteur laïque. C'est son neveu de Hencott, dit-elle, et ses parents sont morts. Il a de quoi subsister pendant un an. Le prieur a donné son accord, et il y a de la place dans le dortoir des garçons. Il ira à l'école avec les novices, mais il ne prononcera pas ses vœux, à moins qu'il ne le décide lui-même. Qu'en dites-vous? Vous l'acceptez? Cadvel regarda l'enfant avec intérêt, et il dit oui sans hésiter, trop heureux de se voir proposer un jeune garçon vigoureux, capable et décidé. Il était mince, solide, et sa démarche était souple. Il lançait des regards prudents par-dessous ses courtes boucles brunes emmêlées. Il avait de longs cils et des yeux bleu noirs, très vifs et brillants. Il se conduisait bien et paraissait modeste, mais pas intimidée. « Oh oui, bien volontiers, » dit Cadvel. « Si ça te tente de travailler dehors avec moi. « Comment t'appelles-tu, petit ?»«
Godric, monsieur, » dit le garçon d'une petite voix brusque, détaillant Cadvel tout aussi attentivement que ce dernier le détaillait.
« Très bien, Godric. On devrait bien s'entendre, toi et moi. Si tu veux, on va aller faire le tour des jardins. On verra les travaux qui nous attendent et tu t'habitueras à rester dans la clôture. Tu trouveras peut-être ça un peu bizarre au début, mais on y est plus en sûreté qu'en ville. C'est pour cela sans doute que ta tante t'a amené ici. » Godric lui jeta un bref regard pénétrant et baissa de nouveau les yeux.
« Veille à venir à Vêpres avec frère Cadvel, » recommanda l'aumônier. « Frère Paul, le maître des novices, te montrera ton lit et te dira ce que tu dois faire après dîner.
Écoute bien ce que te dira frère Cadvel, et surtout obéis-lui. »
« Oui, monsieur, » dit vertueusement le garçon.
Sous cette docilité, on aurait dit qu'il s'efforçait en vain de ne pas rire. Quand frère Oswald s'éloigna à grands pas, le garçon le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il ait disparu, puis il tourna vers Cadvel un regard attentif. Son visage ovale et sérieux, avec une grande bouche ferme faite pour le rire, redevenait sombre rapidement. Même pour les gens insouciants, l'époque n'était pas facile.
« Viens voir le travail dont tu vas te charger, » dit gaiement Cadvel. Et il posa sa bêche pour emmener le nouveau venu faire le tour du jardin clos, lui montrant les légumes, les plantes médicinales, dont le parfum montait à la tête dans l'air de midi, les étangs et les plants de pois qui descendaient presque jusqu'au ruisseau. Le champ où s'était faite la première récolte était déjà tout pâle et desséché par le soleil, et même les plants qu'on avait semés plus tard pliaient sous le poids des cosses.
« Il faudrait les cueillir aujourd'hui et demain. Avec cette chaleur, ils seront moins bons d'ici 2 jours. Et il faudrait nettoyer ceux qu'on a cueillis. Tu peux commencer ça pour moi. Ne les arrache pas. Prends la faucille et coupe-les tout près du sol. Les racines sont bonnes pour nourrir la terre. »
Il parlait gentiment, avec bonne humeur, pour effacer l'impression de regret et de malaise que ce changement abrupt pourrait causer.
« Quel âge as-tu, Godric ?»«
17 ans, » dit-il d'une voix voilée.
Il était plutôt petit pour 17 ans. Il s'essaierait à bêcher plus tard. Le sol que travaillait Cadvel était dur.
« Je ne crains pas l'effort, » dit-il, presque comme s'il avait deviné la pensée de Cadvel et qu'il lui en voulait. « Je ne connais pas grand-chose, mais je ferai tout ce que vous me direz. »«
Très bien. Alors commence avec les pois. Mets les chaumes secs de côté, ça fera de la litière pour les écuries. Les racines, elles, retournent à la terre. »«
Comme les hommes, » dit brusquement Godric.
« Oui, comme les hommes. »
Trop d'entre eux retournaient prématurément à la terre aujourd'hui, dans ce combat fratricide. Il vit le garçon tourner la tête presque involontairement, et par-delà l'abbaye regarder les tours endommagées du château, que voilait un nuage de fumée.
« Tu as de la famille là-bas, petit ?» demanda doucement Cadvel.
« Non, » répondit-il trop vite. « Mais je ne peux m'empêcher de penser à eux. On dit en ville que ça ne pourra pas continuer encore longtemps, que le château tombera peut-être demain. » Et pourtant, ils n'ont fait que leur devoir. Avant sa mort, le roi Henri a fait reconnaître l'impératrice Mathilde comme héritière par ses barons, qui lui ont tous juré fidélité. Elle était la seule enfant vivante. C'est elle qui devrait être reine.
Et pourtant, quand son cousin, le comte Étienne, s'est emparé du trône et s'est fait couronner, trop d'entre eux n'ont pas réagi et ont oublié leur serment. Ils ont tort, c'est évident. Et ça ne peut être mal de rester fidèle à l'impératrice. Comment peuvent-ils justifier leur infidélité ou les prétentions du comte Étienne ?
Justifier n'est peut-être pas le mot qui convient, mais parmi les seigneurs, nombreux sont ceux qui préfèrent un homme à une femme pour suzerain. En ce cas, Étienne était aussi très proche de la couronne. Mathilde et lui avaient pour grand-père Guillaume le Conquérant.
Mais lui n'était pas fils du feu roi Henri Ier. Et de toute manière, tout cela vient de sa mère qui est une femme, comme Mathilde. « Alors, où est la différence ?»
Ayant abandonné son ton de voix prudent, il s'exprimait à présent avec véhémence. « La différence est qu'Étienne s'est précipité pour s'emparer de ce qu'il voulait. »